Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Alors aujourd'hui, nous avons, comme à l'habitude, plusieurs sujets d'intérêt dont nous espérons parler dans l'émission, mais on ne sait jamais avec nous où ça commence. Enfin, on sait où ça commence, mais on ne sait pas exactement avec quel sujet ça finit, parce qu'on a toujours beaucoup de choses à dire sur chacune des questions qui nous intéressent et qui, on l'espère, vous intéressent aussi. En tout cas, pour participer à cet exercice, ma foi, périlleux, mais fort, fort intéressant, Rémi Villemur est en studio avec nous. Bonjour, Rémi Villemur.
Bonjour, Nick.
Alors, vous êtes toujours, aux dernières nouvelles, détenteur d'une maîtrise en histoire et doctorant en sociologie. Et Frédéric Lapointe, lui, est président du Mouvement national des Québécois. Il est au bout du fil ou de je ne sais quel autre dispositif technologique. Bonjour, Frédéric Lapointe.
Oui, c'est le téléphone de ma voiture. Donc, si vous entendez des klaxons, c'est normal, je suis à Drummondville.
Ah, vous conduisez si mal. Ah, c'est parce qu'à Drummondville, ça klaxonne beaucoup, c'est ça que vous voulez dire?
C'est peut-être parce que je suis à un mauvais endroit, donc si vous entendez des choses, c'est pas votre, vous n'hallucinez pas.
Ben parlons-en de Drummondville, Frédéric Lapointe, parce que vous êtes là. Disons que vous couvrez le congrès du Parti québécois pour nous. Est-ce que c'est un congrès d'abord ou c'est je me trompe dans la terminologie?
Alors, c'est un conseil national thématique qui porte sur la question de l'habitation. On sait que la crise du logement qui découle de l'inflation et découle également de la trop grande augmentation de la demande associée à l'immigration, mais pas que. Donc, toute la thématique, c'est la principale thématique qui est étudiée. Il y a des conférenciers, Raphaël Derry, l'ancien maire Maxime Pedneau-Jobin de Gatineau également. Oui, c'est un conseil national studieux. D'une foule également enthousiaste, là, on peut le comprendre, étant donné les sondages pour le Parti québécois.
L'ex-maire Pedneau-Jobin, hein, qui est du... Je pense qu'on peut dire qu'il est dans le giron péquiste où il a des origines ou des accointances avec cette famille politique. Est-ce qu'on pourrait le voir un jour en candidat du Parti québécois, d'après vous?
Disons que si j'avais à recruter un ministre pour un conseil des ministres, quel qu'en soit le parti, il serait en tête de liste.
Ah, c'est une réponse habile, mais en même temps qui fait une fleur à M. Pedneau-Jobin. En tout cas, on verra bien pour la suite. Et comment, dites-nous, Frédéric Lapointe, comment sont les militants du Parti québécois, les gens que vous croisez là, à cet événement? Ça va bien pour les péquistes ces temps-ci, même depuis un bon moment déjà. On doit respirer d'aise, on doit être positif. Est-ce que vous sentez est-ce que la chanson joue à partir de d'aujourd'hui, demain nous appartient, ou qu'est-ce que c'était déjà?
C'est le début d'un temps nouveau?
Oui, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est de bonne humeur, là, j'imagine.
Et ce n'est pas... ils n'ont pas besoin de musique, ils n'ont pas besoin de slogans. Non, je ne pense pas que c'est parce que moi-même je vieillis, mais je crois que c'est le Conseil national le plus jeune auquel il m'a été donné d'assister depuis 35 ans. Donc, il y a un réel renouvellement, un enthousiasme débordant. C'est plaisant à voir. Ça se voit dans d'autres partis politiques également, mais disons que au Parti québécois, après avoir vécu des années plus difficiles, c'est un paysage là, qui fait contraste.
Ça fait contraste aussi avec l'impression ou l'image assez persistante qu'on donne du Parti québécois encore aujourd'hui dans l'univers du commentariat, l'univers médiatique, c'est-à-dire d'un parti et d'une cause qui sont vieillissants. Quand on regarde les sondages, c'est Québec solidaire qui remporte la palme, sans être majoritaire, mais disons que la pluralité d'intentions de vote chez les 18 à 30 quelques, c'est Québec solidaire qui la remporte. Comment se fait-il qu'il y a autant de jeunes? Alors, ça veut dire qu'il y a une couche de la population jeune qui, elle, est très attirée par le Parti québécois, si je comprends bien.
Oui, mais même dans les sondages, vous voyez qu'il y a un espèce de jeu égal hein, entre les deux formations souverainistes. Et en ce moment, au Parti québécois, il y a un surcroît de dynamisme, une redécouverte peut-être de l'option chez les jeunes. Hein. Ce sont des gens qui, en fait, tous les moins de 47 ans, n'ont pas vécu le référendum de 95. En tout cas, s'ils l'ont vécu, ils n'ont pas eu la chance d'y voter. Et donc, c'est une question qui, pour eux, est neuve, alors que pour d'autres, comme moi, comme vous, ou comme des gens plus âgés, cette question-là a déjà été fréquenté. Donc, cet enthousiasme-là, j'oserais dire, est un peu lié à la virginité face à l'enjeu.
Dites-moi, est-ce qu'il y a une sorte d'attrait pour le... Alors, le terme en anglais qui est beaucoup utilisé chez les francophones au Québec, c'est pour le vintage. Hein? On aime les disques vinyles, l'ambiance des années 80 et ces choses-là. Et là, peut-être qu'on aime aussi l'idée de revenir au temps des référendums et du débat sur la sur l'indépendance. Est-ce que ça fait partie? Est-ce qu'il y a une sorte de mouvement de mode comme ça, vous pensez, chez ces jeunes-là?
Oui, ben ça se voit chez les artistes, hein, qu'on revisite les années 80, on revisite les années 70. Oui, ce phénomène-là existe, mais je pense qu'on peut même remonter plus loin si on examine le programme de discussion du week-end. Ils vont réexaminer, par exemple, les origines du mouvement coopératif. Et on sait que là, on parle pas des années 70 et 80. Là, au Québec, le mouvement coopératif remonte au tournant du 18 et du 19e et du 20e siècle et trouve ses origines dans des principes là, qui ont été établis en Europe là, plus tôt dans le 19e siècle. Et donc, non, j'assiste à un colloque fort studieux où les contributions de toutes les époques pour faire face aux défis contemporains sont bienvenues.
Intéressant. Passons à nos sujets. Merci pour ce compte-rendu, ce tour d'horizon, Frédéric Lapointe. Vous nous parlerez de ce qui s'est discuté dans
si
ce...
Si c'est vraiment une mode et qu'on revient aux années 70-80, j'espère quand même que les femmes n'adopteront pas le poil, parce que ça, je trouve que c'est quand même un gain de la modernité.
J'irais plutôt vers Québec solidaire pour ce genre de retour-là.
Ils sont entêtés, oui.
Oui, ce féminisme, bon, comment dire...
Mais tous les goûts sont dans la nature, hein.
Bien sûr. On aura parlé de ça aussi à cette émission. Je pense que c'est un sujet qu'on n'avait jamais abordé. Merci, Rémi Villemur. Donc, la pilosité chez la femme et le rapport peut-être... Enfin, bref.
Politique.
Bon, oui, exactement. Avec l'idéologie aussi derrière ça. Revenons à des choses sérieuses, même si c'est un sujet très sérieux. N'en doutez pas, chers auditeurs. Bien sûr, je reste avec vous, Rémi Villemur. Il faut parler de la visite du premier ministre français, Gabriel Attal, au Québec cette semaine. Étoile, ce n'est plus une étoile montante, c'est une sorte d'étoile filante ou de fulgurance dans le milieu, dans la famille politique française que ce Gabriel Attal, 35 ans, le plus jeune premier ministre français donc de l'histoire de la Ve République, peut-être même d'autres républiques avant, je ne sais plus. Mais en tout cas, bref, il est jeune, il a du succès, ça marche bien pour lui. Il est venu au Québec parler devant les élus de l'Assemblée nationale, Rémi Villemur, et notamment faire cette déclaration très forte sur la laïcité, les raisons de la laïcité, de la philosophie française à cet égard. Hein? Donc, cette laïcité qui comporte un certain nombre de règles, un encadrement du fait religieux, si vous voulez, dans l'espace civique, disons, hein? Pas dans l'espace public, mais en tout cas à l'école.
Oui, à l'école notamment, oui.
Déclaration forte qui a beaucoup retenu l'attention. Plus largement, qu'est-ce que vous pensez de quel bilan faites-vous de cette visite?
Ben, écoutez, contrairement à beaucoup de gens qui ont noté, disait-il, une contradiction entre l'enthousiasme de certains nationalistes pour la venue de cet homme-là et le dégoût face au God Save the King chanté à la Chambre des communes.
On
va en parler. Bon, ben, en tout cas, moi, je suis ouvertement et confortablement enthousiaste par rapport à ce genre d'événement-là. Écoutez, ça faisait très longtemps, quoi, 40 ans, qu'on n'avait pas reçu la visite d'un premier ministre.
Laurent Fabius, qui était lui aussi
le plus jeune, l'a noté Gabriel Attal au début de son discours. C'est un moment... qui pourrait être important dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ce l'est déjà, on me dira, mais dans 10-15 ans, il faudra voir qu'est-ce que cet événement-là aura joué, parce que j'ai noté quand même, pas juste chez les nationalistes, une sorte de joie qui était intelligente, c'est-à-dire une joie qui s'inscrivait dans une compréhension de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire la montée d'un certain nationalisme au Québec. Écoutez, quand il s'est prononcé sur le nini, hein, ni l'ingérence, ni l'indifférence, c'est pas un détail. Dans une entrevue qu'il a accordée à Sébastien Beauvais, il est allé plus loin.
Il est allé dans le et.
Oui, donc et respect et sensibilité, si ma mémoire est bonne.
Expliquons à nos auditeurs, là, traditionnellement, le principe de la non-ingérence, non-indifférence à l'égard du Québec pour les gouvernements français successifs, c'est l'idée d'accompagner le Québec dans ses choix, d'aller le plus loin possible, si on veut, dans le fait de montrer une certaine sympathie envers la cause québécoise, sans toutefois créé un impair diplomatique avec l'allié canadien. Donc, on dit, on est intéressé à ce que vous allez faire, on va vous suivre et vous épauler dans vos choix, mais on ne se mêle pas oui, directement du débat. Quoi qu'en même temps, pour certains, ça, c'est déjà assez pour être qualifié de ce que la France se mêle du débat un peu, mais...
Oui.
Alors, Attal, lui, va un petit peu plus loin, ou enfin, il reformule en disant « Je veux pas être dans le négatif, moi, je veux être dans le « et », donc je suis à la fois
sensible
et respectueux », ce qui revient un peu au même. Bon,
ce qui revient un peu au même, mais comme c'est quelqu'un de jeune, et d'ailleurs, son discours était vraiment influencé par cette énergie de la jeunesse, mais il dit « Je serai pas dans une logique de négation, donc pas le ni, on va y aller pour le « et ». Moi, ce qui a retenu mon attention cette semaine, c'est vraiment... le rapport que les Québécois pouvaient entretenir avec cette visite-là. Il y avait d'un côté des gens qui étaient, parce qu'ils sont nationalistes, parce qu'ils sont tournés vers la France depuis quelques années, ou alors parce qu'ils n'ont jamais détourné le regard de la France, ils se disaient « Waouh, quel beau moment ». Et d'un autre côté, il y avait... Bon, écoutez, on a vu quand même la moitié du caucus, ou quoi, le tiers du caucus de Québec solidaire s'absenter du discours. On en reparlera, j'imagine, aussi. Mm-hmm. On a vu 8 députés du Parti libéral s'absenter aussi, si le compte est bon. Il y avait donc, d'un autre côté, des gens qui se disaient, quoi, soit indifférents à l'idée de devoir recevoir un homme pareil et de lui accorder de l'attention, ou alors opposés, littéralement, à cette idée-là. Et là, on était vraiment dans ce que Mathieu Bocoté a bien fait d'appeler le ticounisme. Là. Vraiment, donc, une espèce d'esprit de répulsion devant la grandeur. Il faut écouter le discours parce que c'est un grand discours. On n'est pas habitué à ça. Vous savez, moi, j'ai organisé un spectacle avec les plus grands discours de l'histoire de l'humanité parce que, justement, ça manque dans le paysage politique québécois. Je disais des gens sur Twitter...
Rappelez-nous le titre de ce spectacle.
Au grand mot, les grands discours.
Ça tourne encore?
Oui, on s'en va à Sainte-Agathe au mois de mai, puis ensuite tourner à l'automne. On aura l'occasion d'en reparler.
Vous n'êtes pas sur scène, vous, Rémi Villemur, mais vous avez été parmi les scripteurs, les concepteurs.
Oui, à la sélection des textes, exactement.
Voilà.
Mais un grand discours comme ça, je trouve que c'est rafraîchissant. Ça
spectacle nous salué par la critique.
Notamment, c'est gentil, oui, c'est vrai. Il faut l'écouter, ce discours-là, parce qu'on n'est pas habitué d'avoir ça. Il y a donc des gens qui ont trouvé le moyen de dire « Bah, écoutez, quelqu'un qui vient nous dire quoi faire. » Ça, cette espèce d'esprit-là est encore assez présent au Québec. Et il faut lutter contre cet esprit-là, mais c'est compliqué. Parce qu'il faut commencer à la base. Il faut expliquer aux gens c'est quoi la diplomatie, quelle est la responsabilité, qu'est-ce que c'est qu'un premier ministre, qu'est-ce que ça veut dire être premier ministre français à 35 ans aussi. C'est pas un homme inusité là, qui est venu nous visiter cette semaine. C'est quelqu'un qui va passer à l'histoire, qui pourrait même devenir premier président français là, un jour.
En tout cas, il y a du temps devant lui. Hein?
Oui,
si c'est ça son projet, il y a beaucoup de chances de s'y prendre et de s'y reprendre. On sait que souvent, les présidents français s'y sont essayés 2 ou 3 fois.
En pensant à Chirac.
Oui, c'est ça. Et d'autres qui ne sont jamais parvenus aussi. Hein? Après de multiples essais, on peut pour le moment penser à Mélenchon, François Bayrou et d'autres. Frédéric Lapointe, qu'est-ce que vous pensez de cette dichotomie? Elle est dans le discours, dans les réactions, elle est prévisible comme la pluie. À chaque fois qu'un dignitaire, un premier ministre, un président français vient au Québec, on nous dit... Et puis, à l'occasion d'autres débats aussi, il y a ceux qui saluent, qui semblent plutôt heureux de ce que... Ça fait du bien à plusieurs que le Québec soit traité presque comme un État souverain momentanément. Hein? Il n'y a à peu près que la France qui réserve ce genre d'égard à l'État québécois. Puis vous avez ceux qui, au contraire, disent « Ah, franchement, quelle mentalité de coloniser, se précipiter, se mettre à genoux ainsi devant les dirigeants français. » On entend ce discours notamment dans une certaine droite libertarienne dans la radio de Québec, il faut bien le dire, mais pas que. Est-ce que ces objections-là sont valides, Frédéric Lapointe? Est-ce qu'on peut parler de mentalité de coloniser ici? Il me semble qu'il faudrait déjà que la France nous colonise ou nous domine d'une façon ou d'une autre pour que ce propos soit valide, non?
On entend la même chose du côté de l'autre solitude proche, pourrait-on dire, là, les anglophones, ceux qui vivent plus souvent en anglais à Montréal. Du côté de Québec, peut-être que, et là je les psychanalyse peut-être abusivement...
Mais peu importe qui le dit, vous avez raison, évidemment, dans les milieux anglo-montréalais, cette accusation est constante. On a vu une des chroniqueuses du journal de Gazette là, dire « Mais franchement, il faudrait se calmer un peu sur l'amour de Gabriel Attal. » Bon.
Oui, c'est ça. C'est correct qu'il y a un contrepoint également. Mais c'est certain que dans notre histoire, le projet du colonisateur qui n'est pas la France, hein, qui est la Grande-Bretagne, l'Empire britannique, le projet a été de nous effacer, hein, au possible. Donc, nous en avons tiré, on pourrait dire, deux, je dis pas des névroses, là, mais deux types de réactions. La première, c'est forcément de se sentir menacé lorsque quelqu'un s'en prend à nous. Hein. Tous les discours francophobes nous atteignent au plus haut point parce que ça correspond à un projet politique qui a été celui de nous effacer. Et de l'autre côté, ben oui, nous avons une réaction qui de surprise, de contentement, de fierté lorsque nous sommes l'objet d'une reconnaissance internationale, mais précisément parce qu'elle est rare. Alors, c'est tout à fait normal comme réaction. Et à moins d'avoir vécu comme blessure le fait d'être invisibilisé chez soi, ben on peut pas comprendre. Alors, que les gens du Canada anglais ou des observateurs récents du Québec s'étonnent de notre réaction face à l'avenue du premier ministre français, ben on peut le comprendre, mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas le même vécu. Et je pense
non, mais on s'étonne, Frédéric Lapointe, mais on conteste, on critique au nom de ce qui serait un esprit de colonisé. Pourquoi les Français viennent-ils ici? Oui, c'est ça, nous dire quoi faire, là, comme disait Rémi Villemur, même si bon, on ne peut pas vraiment dire que c'est ce qu'a fait M. Attal, mais enfin, qu'importe. Et pourquoi on leur donne autant d'importance? Quelle mentalité petite et réductrice? C'est ça, la critique. Comment vous l'expliquez, cette critique-là?
Je comprends. Mais je veux pas critiquer l'esprit d'indépendance d'un certain nombre de gens à Québec qui croient que nous devrions pas nous aligner sur un pays européen ou une grande puissance ou une puissance passée, qu'ils aient l'esprit critique et l'esprit d'indépendance qui est le leur. Il reste que dans le grand jeu des nations, nous aurons besoin d'alliés, hein, quoi qu'en pense les gens qui souhaitent que nous soyons les plus dignes et les plus indépendants au monde, là, on a besoin d'alliés. Et la venue, effectivement, du premier ministre français et les grandes dispositions qu'il a manifestées, ben, ça a une signification géopolitique. On a passé peut-être les 20 dernières années à supputer dans la classe politique québécoise de la perte d'attrait du Québec dans la classe politique française. Hein. C'était ça, la discussion, c'était ça, le discours. C'est ce qui est venu contredire Gabriel Attal par sa venue au Québec. Maintenant, on en tire un certain profit, on en tire un certain éclairage, mais j'oserais dire que Gabriel Attal lui-même en tire un certain éclairage parce que être applaudi au Québec quand on est un premier ministre français, être invité d'abord, c'est automatique. Là. On est un très bon public. Alors, c'est une visite qui lui donne un bon profil, lui donne des épaules plus larges.
Il y a incidemment sa première sortie en dehors de l'Union européenne. Rémi Villemur, qu'est-ce que vous voulez ajouter là-dessus?
C'est juste que je pense qu'il y a quand même une différence entre... Parce que naturellement, tout le monde a le droit à son opinion, les gens de Québec...
Mais on peut dire effectivement, on ne veut rien savoir de dirigeants
tout
étrangers
à fait,
qui viennent nous chanter la pomme ici, quels qu'ils soient. Mais c'est pas exactement à ça
mais
qu'on a affaire.
C'est ça l'affaire, c'est que oui, on peut penser ce qu'on veut, mais je pense pas que ce sont des gens qui expriment de façon organisée une indépendance d'action, une indépendance d'organisation.
Parce qu'ils sont pas mal moins susceptibles lorsque c'est le Canada
exemple,
qui nous dit quoi faire.
Ben, si c'était M. Milley qui venait nous voir ou si c'était M. Trump en 2025 qui venait nous voir, là, ce serait très différent. Il faudrait noter dans le discours. Non, je pense que ce sont des gens qui manquent, et je vais être sans doute un petit peu méprisant, mais j'ai noté quand même un certain manque d'éducation politique là, dans l'expression de certains sentiments cette semaine. Des gens qui disent oh, on n'a pas besoin d'avoir du monde qui vient nous dire quoi faire. Attendez une minute, là, c'est parce que ça fonctionne pas comme ça, la politique. Je veux dire, le Québec est une province, mais le Québec est un État. Donc, un État entretient des rapports avec d'autres États. Et c'est pas... moi, vous savez, je suis indépendantiste. C'est pas
un secret
pour personne.
On est bien content quand nos dirigeants, les dirigeants canadiens, par exemple, vont dire à des Chinois, leur parler des droits de l'homme, ou ils vont un peu leur dire quoi faire.
Regardez,
aussi.
Éric Duhaime est en tournée là, au Canada. Si on avait la visite de Mme Smith, qui est la première ministre de l'Alberta, je suis à peu près certain que les gens, disons, dans une certaine région au Québec, qui disaient cette semaine que ça n'avait pas d'allure que quelqu'un vienne nous dire quoi faire, ben, je suis pas mal sûr que ces gens-là seraient contents de venir voir, de voir arriver Mme Smith et nous dire et faire des entrevues à la télévision. Donc, je pense qu'il y a de l'hypocrisie d'une part, mais il y a aussi un manque d'éducation politique. C'est normal de recevoir la visite d'un dignitaire et pas n'importe lequel. Et il faut observer, il a été très, très, très délicat, très subtil, il a été très courtois, très humble, M. Attal, cette semaine. Il n'a pas dit quoi faire à personne.
Bon, alors certains pourraient contester ce que vous venez de dire à cause de sa déclaration sur la laïcité. En même temps, bon, ça allait dans le sens de ce que fait déjà le Québec.
Ben, ça va dans le sens de ce que les Québécois ont exprimé. Oui, absolument.
M. Comme Trudeau a peut-être une autre idée là-dessus, lui, parce que là, effectivement, c'était un peu plus contradictoire avec ce que fait le Canada.
Ben, vous noterez d'ailleurs qu'après l'allocution de Gabriel Attal à Ottawa, là où il a confirmé son adhésion au principe du Nini, dont on vient de parler, Justin Trudeau a pris la parole tout de suite après pour dire la belle province du Québec. Alors, je comprends bien que M. Attal soit sensible à son sort, la belle province, une belle expression quand même qu'on a sorti des boulamites.
Oui. Est-ce qu'on nous dit un peu quoi faire aussi quand on nous appelle la belle province? C'est autre chose. Mais alors, très intéressant. Vous avez effleuré le sujet tout à l'heure, Rémi Villemur. Allons-y tout de suite. Québec solidaire. Alors, il y a eu les réactions des différents partis politiques. Paul Saint-Pierre Plamondon, à l'Assemblée nationale, a tout de suite saisi la balle au bon après le discours de M. Attal pour lui parler d'indépendance. Hein? Il lui a dit, à mot à peine couvert, on lui a dit... Je paraphrase, il lui a dit « Nous comprenons que vous ne citiez pas au texte le général de Gaulle parce que c'est compliqué pour vous, vous êtes dans une situation diplomatique difficile, mais nous espérons que vous vous y préparez quand même au cas où. Hein? » C'est un peu ce qu'il a dit Saint-Pierre Plamondon. François Legault a fait un beau discours très, très aimable, très plein d'esprit coopératif et de remerciements aussi, hein, d'une certaine façon, à Gabriel Attal. Même le chef du Parti libéral est allé d'un propos assez poli, certes, mais même enthousiaste, là, je dirais. Évidemment, il a dit « Notre relation avec la France s'est forgée au fil des soubresauts de l'histoire. Hein? » C'était une façon de dire « Bon, on n'est pas toujours d'accord. » Et puis, voilà, aujourd'hui, nous grandissons sous la rose après être nés sous le lys et c'est parfait comme ça. C'est ce que ça voulait dire un peu. Mais ensuite, vous avez Québec solidaire. Alors, comme QS est un parti souverainiste, du moins, c'est ce qu'il dit, les journalistes ont commencé par demander au député de Taschereau, M. Grandmont, il était à ce moment-là sur une tribune accompagné de Mme Labrie, Christine Labrie, et donc on leur a demandé ce qu'il pensait de l'importance d'un appui diplomatique de la France pour un Québec qui déciderait de devenir souverain. Et là, M. Grandmont a répondu « Bof, vous savez, c'est un gouvernement de droite. Ouais. On n'attend rien d'eux. On n'est pas d'accord sur la réforme des retraites. » Et puis, bof, il y avait beaucoup de babounes et de haussements d'épaules et de presque de dédain.
Très adulte comme comportement.
Ben là, on confondait aussi le gouvernement et la France. Enfin,
tout à fait.
Parce que
mais ce que QS a de la difficulté à faire, parce que QS voit un Québec souverain à gauche, donc gouverner éternellement à gauche. Donc, c'est une sorte de lapsus qui n'en est pas un.
L'indépendance doit être de gauche. Oui. Mais donc, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction? Après ça, à l'Assemblée nationale, Nadeau-Dubois, lui, a été un peu plus neutre. Pas de souveraineté, hein, il n'est pas allé là du tout, cependant. Mais comme vous le dites, le tiers des députés de Québec solidaire était néanmoins absent. Qu'est-ce que tout ça vous dit sur Québec solidaire? Est-ce qu'il y a un difficile passage à la maturité politique ici ou bien est-ce que c'est autre chose? Peut-être un véritable conflit de valeurs ou de...
Ben, voilà. Écoutez, la version officielle, Ruba Gazal l'a exprimée à Mario Dumont à la télévision, à LCN hier, si je ne m'abuse. Elle a dit qu'ils avaient tous, ces quatre députés-là, Labrie, Gazal, Boisy et Grandmont, des engagements. Je note quand même, et vous venez de le faire, mais je le répète, M. Grandmont est député de Taschereau. Donc, l'Assemblée nationale est dans le député de Taschereau. Donc, un député, pour les gens qui l'ignorent, il est soit dans sa circonscription, soit à Québec. Donc, M. Grandmont était à Québec ce jour-là. Il était sûrement dans sa circonscription même. Mme Gazal, elle était dans une école. Et d'ailleurs, Mario Dumont en a ri, parce que c'est la pire excuse que vous pouvez donner, ça. C'est comme quand vous dites que votre chien a mangé votre devoir, là. Donc, elle avait un engagement dans une école secondaire.
Est-ce que c'était pas dans Taschereau, ça aussi?
Je pense que oui. Oui. C'était à Québec, en tout cas. Donc, écoutez, il faut pas nous prendre pour des imbéciles, là. Je pense que ces gens-là ont ignoré l'invitation qui était faite. Et ça en dit long sur le niveau de maturité de ce parti-là, qui se prétend adulte, mais qui, visiblement, quand on regarde les sondages et aussi les résultats aux élections, est coincé à l'âge adolescent. C'est un parti qui a de la difficulté à grandir. Il mue, mais c'en est ridicule. C'est-à-dire, c'est comme ce jeune de 19 ans, encore pris avec de l'acné, une voix comme ça. Il est encore... Québec solidaire, c'est ça. Donc, on ne passe pas à l'âge adulte, on habite dans le sous-sol de chez nos parents et on s'apprête à devenir un tanguy.
Mais ça, c'est une critique très dure, mais c'est aussi un parti indépendantiste, apparemment.
Apparemment.
Il n'y a pas là aussi un problème qui ne relève pas que d'une question de maturité. Là. Normalement, on aurait dû sauter sur l'occasion.
Mais là, cette fois-ci, je vous dirais que je vais leur donner le bénéfice du doute parce que depuis quelques mois, j'ai l'impression, depuis la course au co-porte-parole, c'est le mot le plus difficile à dire de la langue française, ils en parlent plus. Donc, est-ce que parce qu'ils n'en ont pas parlé, c'est parce qu'ils sont revenus à cette espèce de mutisme sur cette question-là? J'en sais rien. Je sais que moi, depuis des semaines, j'ai envie de les féliciter sur cette question-là.
Est-ce qu'on en parle parce que le Parti québécois est fort dans les sondages?
Écoutez, ça, c'est peut-être, effectivement. Mais vraiment, le commentaire devant les journalistes de M. Grandmont qui dit oh, « Vous savez, c'est un gouvernement de droite », c'est décevant, c'est absolument horrible, en fait, là, d'un point de vue de politique.
Un parti. Par ailleurs, est-ce que c'est vraiment un gouvernement de droite, ben, si on le situe sur l'échiquier mondial?
Il ne faut pas juste lire Le Monde, là. Je pense qu'il faut lire peut-être un peu aussi Le Figaro, parce que j'ai l'impression que...
Non, mais ça, c'est méchant, Le Figaro.
Oui, je sais
Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lapointe? Est-ce qu'on a échappé le ballon à Québec solidaire? Comment vous analysez, vous, ce comportement? Est-ce que Rémi Villemur et moi-même, d'ailleurs, sommes trop critiques, trop sévères?
Sur l'intervention de M. Grandmont, je pense que ce que vous livrez, c'est un montage de ces interventions à la suite de plusieurs questions des journalistes.
Moi, j'ai regardé le point de presse complet. Donc, évidemment, je passe ce qu'il a dit sur d'autres questions, mais sur cette question-là précise, il a dit... Alors, vous faites bien de me reprendre. Il a dit il est important d'entretenir avec la France un lien particulier, privilégié. Il le disait quand même avec une certaine... presque dans un soupir, hein, comme s'il fallait faire cette figure imposée. Puis ensuite, il a bel et bien dit que, comme c'est un gouvernement de droite, nous, vous savez, on n'attend pas grand-chose d'eux. C'était quand même ça, sa réaction.
Oui, puis c'était à la suite d'une question de relance là, d'un journaliste, si je ne m'abuse. Cela étant, moi, je pense que, d'une part, les positions souverainistes, la posture souverainiste de Québec solidaire est non seulement intéressée, mais sincère. À savoir que il pourrait très bien, étant donné la forte montée du Parti québécois et le fait qu'il occupe une très grande partie de l'espace des électeurs souverainistes, il pourrait faire un choix stratégique et aller chasser sur d'autres terres en étant moins souverainiste. Donc, s'ils font ce choix-là, je pense que c'est aussi un choix de conviction. Le deuxième aspect que je voudrais apporter, et qui est aussi une conséquence de la montée du Parti québécois, une montée qui semble durable dans les sondages, c'est que Québec solidaire, je pense, assume de plus en plus le fait qu'ils ne composeront pas le gouvernement suite aux prochaines élections. Ça peut apparaître là, comme une posture juvénile, là, comme, comme Rémi nous dit, mais c'est aussi parce que ils adoptent davantage une posture d'opposition, donc pour satisfaire leur public.
J'allais vous poser la question. C'est peut-être au fond parce que c'est ce que veut entendre son noyau, le noyau électoral de Québec solidaire, qui est peut-être davantage attaché à la question gauche-droite et la question sociale que la question d'indépendance. Par conséquent, quand on ne rate pas une occasion de faire la fine bouche devant un gouvernement de droite, tout le monde est content.
Voilà, pensez-y, si vous êtes Québec solidaire et que vous tenez à peu près de façon identique le discours du Parti québécois avant ou après celui du Parti québécois, vous ne marquez pas nécessairement de points et vous n'apportez pas de la satisfaction à l'ensemble de votre base. Donc, je pense qu'il faut être indulgent. Je pense qu'il faut observer que les deux formations politiques répondent pas aux mêmes impératifs.
Oui, ce qui veut donc dire qu'on n'a peut-être pas les mêmes objectifs, au fond, Rémi Villemur, mais vous...
Oui, mais c'est parce que le problème, c'est que quand vous ratez une occasion pareille de dire la bonne chose, c'est-à-dire de faire preuve d'ouverture, et parce que vous êtes un parti souverainiste, de vous dire enthousiaste à la venue d'un homme pareil, c'est pas parce que vous regardez l'élection arriver puis vous dites « on ne sera pas au pouvoir ». D'ailleurs, je pense pas qu'ils viennent de le découvrir, là, sincèrement. C'est pas... C'est décision. C'est, il faut prendre cette décision-là en s'imaginant 10 ans plus loin, 20 ans plus loin. Et on va se rappeler de leur position, qui ne devrait pas changer d'ailleurs. Parce que, je veux dire, quand on se dit si attaché que ça à la gauche et à la droite, c'est un mal profond qui est inscrit dans l'âme même du parti. C'est vraiment l'idée d'un adolescent qui ne vieillira peut-être même jamais.
Notre NPD.
Il ne reviendra pas en 2027, normalement, M. Attal. Ce n'est pas prévu, en tout cas. Donc, ça arrive. Regardez, ça faisait 40 ans qu'on attendait la venue de quelqu'un. Donc, ils étaient mal organisés. Ils avaient été mal briefés, comme on dit en anglais. Et je pense que ce parti-là vient non seulement de se positionner comme parti d'opposition en vue de la prochaine élection, mais comme parti d'opposition pour les 10 prochaines années.
Frédéric Lapointe, sur la déclaration du premier ministre Attal sur la laïcité, hein, à l'effet que la laïcité est la condition essentielle à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Hein, on a reconnu la devise française. C'était très fort. L'Assemblée nationale a explosé dans un tonnerre d'applaudissements à ce moment-là. On a sans doute pris bonne note de cette déclaration dans les milieux où on est opposé à cette vision de la laïcité au Québec et au Canada. Comment vous l'avez vu, vous? Est-ce que là, il n'y a pas justement une forme, sinon d'ingérence, je n'en sais rien, et sinon, est-ce que c'est pour des questions de politique intérieure aussi, peut-être, que le premier ministre Attal a fait cette déclaration? On ne peut pas dire que ça va super bien en France dans ce dossier-là.
Non, j'allais le dire, mais sur votre premier point, c'est la loi du lieu. Alors qu'un dirigeant étranger se félicite que la loi du lieu soit la même là où il visite ou chez lui, c'est pas une ingérence. Si on était en pleine commission d'enquête sur les accommodements raisonnables et que différentes options étaient étudiées et que le premier ministre français arrive en visite et dit « vous devriez choisir A plutôt que B », là, on serait dans le registre de l'ingérence. Donc, non, cette pièce de théâtre était acceptable. Elle peut,
ben, on aurait pu voir ça comme de l'ingérence du point de vue d'Ottawa, évidemment, puisque là-bas, on compte bien contester la loi 21 en Cour suprême. Et voilà, donc pour eux, la question n'est pas tranchée.
Mais elle est néanmoins la loi du lieu. Donc, ils peuvent pas l'invoquer. Si Ottawa avait révoqué la loi, un pouvoir de refus, enfin quelques procédures extraordinaires, et que la France intervenait, là, on serait dans un autre registre. Mais sinon, vous avez raison. Encore une fois, le premier ministre français qui vient au Québec se faire applaudir par des Québécois que des Français vont voir peut-être abusivement comme des semblables sur des questions qui sont chères pas toutes les familles, là, mais un grand nombre de familles politiques en France. Ben, c'est tout bénéfice pour le premier ministre. En ce moment, ils perdent leur vote là à l'occasion, que ce soit au Sénat ou à l'ensemble de leur Parlement, que ce soit sur des questions de traité de libre-échange ou même dans le cas de la réforme des retraites, là, s'abstenir d'aller réclamer même un vote en Chambre. Donc, il y a des difficultés pour le parti présidentiel français et c'est une très belle vitrine pour un jeune premier ministre que de faire briller la France, de montrer que la France a de l'influence dans le monde. Hein. C'est un peu ça, hein, dire que au Québec, vous avez raison de faire comme nous. Hein. C'est un peu laisser supposer que la France a de l'influence. Donc oui, il revient avec un peu plus de brillant sous les yeux puis des épaules plus larges, comme je le disais.
Rémi Villemur, on a effleuré la question avec Frédéric Lapointe qui n'a pas voulu peut-être aller là où je l'emmenais là-dessus, sur la question de peut-être du fait que M. Attal peut avoir été mal perçu ou en tout cas sa déclaration peut avoir été mal vécue à Ottawa. C'est quand même un débat brûlant qui clive entre le Québec et le Canada. On n'a pas dû beaucoup aimer cette déclaration à Ottawa, non? Est-ce qu'on met pas une petite note dans un cahier quelque part
on a une petite... On est plus invité.
Ben, je sais pas. Enfin, c'est quand même audacieux, me semble-t-il, non, de la part de M. Attal, non? Vous pensez pas, vous non plus?
À quoi s'attendait-il? Je parle bien des libéraux.
C'est pas vivre le Québec libre, là.
Non, mais je veux dire, c'est de quoi allait-il parler sinon que de ça? Il faut savoir aussi que le gouvernement du Québec a dû faire des efforts au plan diplomatique, parce que vous savez comment ça fonctionne, hein? Cette visite-là, elle est organisée depuis longtemps. On a dû envoyer des demandes, mettre de la pression pour que
négocier.
Ce discours-là traite de la question de la laïcité, mais aussi de la langue. Parce que ce
ça,
sont,
c'est l'autre aspect. Oui,
ce
oui,
sont les deux parler. Héritages, entre guillemets, en tout cas, oui. Je mets surtout la langue, entre guillemets, de la CAQ qui s'approche.
Mais autrement dit, voilà, ça amène un peu d'eau à mon moulin. C'est-à-dire que ça fait quand même un discours assez nationaliste, assez oui. affirmationniste oui. en pleine Assemblée nationale du Québec de la part d'un leader français. C'est, ça peut être mal vécu par Ottawa, ça.
Mais moi, je suis certain que cette visite-là, elle n'était pas attendue avec
on n'est jamais heureux de ça.
Côté.
Hein?
Non, ouais. je pense qu'on n'est jamais très, très, très à l'aise à l'idée qu'un dignitaire français vienne visiter le Canada et ensuite le Québec. Avec M. Macron, je pense qu'on peut s'attendre à un peu moins de, disons, un peu moins de risques.
Ben, mais... Il semble qu'il ne viendra même pas au Québec, là,
non,
d'après
voilà,
ce qu'on
non.
Ce qu'on
mais il ira en Acadie, ouais. Semblerait-il. Je pense que, oui, vous avez raison de dire que ça a dû déranger Ottawa, mais je pense qu'on s'y attendait et que les dommages n'ont pas été plus importants que ce qu'on avait bien prévu. Là.
Alors là-dessus, Frédéric Lapointe, sur la langue, c'était l'autre aspect très important du discours du premier ministre Attal, la défense de la langue française. Lui et François Legault ont signé une entente à cet égard, là, qui porte notamment sur la question de la découvrabilité des contenus francophones en ligne, sur Internet, sur les divers réseaux. Est-ce que vous avez l'impression qu'on était dans les formules, dans l'apparat, dans le convenu, ou s'il peut découler de cette entente et de ce discours de M. Attal et de sa volonté affichée de véritables résultats concrets?
Non, il y a une réelle avance du Québec sur cette question. On se souvient que le ministre Lacombe avait mandaté un comité d'experts qui a produit un rapport fort étoffé, fort remarqué dans l'ensemble de la francophonie. Le rapport est étudié par l'UNESCO. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, est en ce moment en France à conclure des ententes relativement à la mise sur pied de comités qui vont dans le même sens. Et donc, non, c'est une ligne de force du gouvernement de la CAQ d'avoir réussi à être à la pointe non seulement de la discussion, du débat au Québec, mais à travers la francophonie. Nous ne nous sommes pas habitués à ça dans toutes les lignes ministérielles, mais sur la question de la langue et de la culture, l'enjeu de la découvrabilité est d'abord porté par le Québec. Et que la France suive, c'est un honneur, c'est une fleur à la boutonnière pour le gouvernement de la CAQ, c'est un bon coup. Et pour les Français, c'est pas forcément naturel. Hein. On sait que la France ne brille pas par sa discipline linguistique. Ils adoptent des anglicismes, ils font des publicités en anglais à Paris, comme on en voit dans d'autres capitales européennes.
Alors là-dessus, il fallait voir Frédéric Lapointe, l'entrevue de Sébastien Beauvais de Radio-Canada avec M. Attal. Beauvais, à un moment donné, lui dresse une liste des anglicismes utilisés fréquemment par les Français, smartphone, sponsor et autres. Il y en avait une douzaine. Et M. Attal a semblé un peu mal à l'aise et amusé. Il a réagi en disant « j'ai jamais entendu ça, la plupart de ces mots », comme si le problème ou comme si ce très particulier des Français n'existait pas. Donc, vous avez raison de dire que les Français sont plutôt légers sur cette question. C'est pour ça que je me demandais si on est vraiment à l'aube de voir des résultats.
C'est peut-être un point sur lequel le petit, c'est-à-dire le Québec, hein, qui a 10 fois moins de population que la France à peu près, encore que notre croissance démographique réduit le cas, mais c'est peut-être un cas où on exerce un leadership et une influence positive sur la France en montrant l'exemple. Puis en toute justice avec M. le Premier ministre français, c'est surtout qu'on n'a pas les mêmes anglicismes. Hein? Alors on s'étonne mutuellement là, de quels anglicismes un groupe et l'autre véhicule.
Oui, donc, évidemment, en France, on se contente de mots, là, de simples mots. On n'est pas dans les formules, les phrases, la syntaxe anglicisée voilà. Comme on peut l'être souvent ici. Il faut quand même le reconnaître, oui. Effectivement. Rémi Villemur, sur la question de la langue, pensez-vous qu'on obtiendra des résultats? Est-ce que ça sert à quelque chose, ce genre d'alliance affichée? François Legault a déclaré dans le point de presse conjoint avec M. Attal qu'il était très heureux d'avoir pu expliquer à M. Attal la déroute montréalaise du français, hein? Le déclin. Il faut contrer ce déclin, le renverser. Et le premier ministre français opinait. Alors, c'est quand même... Là, il y a quelque chose, là. Est-ce que ça sert François Legault, peut-être?
Écoutez, moi, en toute franchise, je suis toujours un petit peu sceptique devant ces exercices-là diplomatiques. Là. Je pense que c'est important de les accomplir.
Parole.
Ouais, d'Alida. et d'Alain Delon aussi.
Oui.
Je pense que c'est important de les accomplir, mais est-ce que ça donne quelque chose, surtout quand on sait que le caquisme est en déroute, que probablement que les péquistes vont prendre le pouvoir et aller un peu plus loin sur ces questions-là. Donc, est-ce que ça n'aura été qu'une étape préliminaire à quelque chose d'un peu plus intéressant qui viendrait?
Vous avancez beaucoup. Vous êtes sûr que le PQ va prendre le pouvoir? On prend des notes.
Oui, prenez-en.
Vous êtes enregistré.
Oui, oui. Je sais pas. En toute franchise, je pense pas là, que ça va changer. On va prendre le bateau et qu'on va s'en aller dans une direction opposée. Mais c'est important d'exprimer ces sentiments-là.
Bon, Frédéric Lapointe, allons vers Ottawa. Assez pour la visite du premier ministre français. Parce que pendant ce temps-là, il y avait un vote à la Chambre des communes sur un projet de loi, une initiative qui avait été portée par le député libéral de Madawaska-Restigouche, un Acadien, je crois, qui portait sur le fameux serment d'allégeance au roi d'Angleterre. Voilà. Et 197 députés fédéraux ont voté contre ce projet. 113 l'ont appuyé, c'est-à-dire l'ensemble des élus bloquistes et néo-démocrates et quelques autres. Et là, c'est pas ça la nouvelle. Bon, il y a une nouvelle là en soi, sans doute. Mais c'est surtout que tout de suite après, les députés, surtout conservateurs, ont entonné « God save the king », hein, avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Alors, certains sont absolument révulsés par ça, en disant « Mais quel manque de sensibilité pour les Acadiens, au premier titre, qui ont été déportés, on le sait. Il n'y aurait pas eu moyen de voter plus sobrement contre un tel projet de loi. Est-ce qu'on n'a pas ajouté une sorte d'injure à l'insulte ici? Qu'est-ce que vous en pensez? »
Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Et c'est pas, c'est pas un événement isolé. La communauté acadienne, par exemple, au Nouveau-Brunswick, qui fait face à un gouvernement conservateur un peu particulier, à l'occasion erratique et avec des accents francophobes, malheureusement, ils doivent pas être trop surpris de voir que cette attitude qu'ils observent chez eux au Nouveau-Brunswick, ben, est présente ailleurs au Canada, là où, par ailleurs, l'histoire réelle des Acadiens est probablement très, très méconnue, si ce n'est qu'ils ont, dans le reste du Canada, toujours la belle occasion qu'on leur offre, hein, à travers ce vote, d'exprimer un peu de francophobie. Que les gens soient attachés à la couronne d'Angleterre, c'est une chose. Ça se défend. Ça se plaide. On peut associer ça au régime politique, associer ça au maintien de l'ordre, associer ça à une forme d'arbitrage que la couronne peut exercer même entre les peuples. Ça se plaide. Mais d'entonner l'hymne de façon narquoise face à l'initiative acadienne, c'est un geste là, que j'interprète comme étant hostile.
Ben, colonial, hein? Rémi Villemur, qu'en pensez-vous? Évidemment, le député du Parti québécois, Joël Arsenault, a dénoncé, lui, ici, du Québec, de Québec. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement une symbolique, là, très, très forte? On vous a battu, puis tant pis pour vous, puis on en remet, puis on chante, on célèbre la victoire. C'est assez terrible. Pierre Poilievre a voté pour le maintien du serment au roi, comme la plupart des députés conservateurs, sauf ceux du Québec, dont plusieurs ont voté pour le libre choix. Hein? C'était ça là, que...
Ouais. Que le député Arsenault aussi, d'ailleurs, de l'Acadie...
C'est lui, l'autre Arsenault.
Oui, les deux Arsenault sont contre. Donc, ouais. Ça va. Non, mais écoutez, je pense que c'est exactement la bonne lecture à faire. Il y a, que des gens soient, pour des raisons qui m'échappent en toute franchise, encore attachés à la figure monarchique, ça, c'est correct. C'est une opinion qui a le droit d'exister et de circuler. Mais moi, c'est la moquerie.
Il y en a en France aussi, hein? On en parlait.
Oui, tout à fait. Mais c'est le regard moqueur. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont eu quand même le flair de remarquer que si ce sont des conservateurs qui ont majoritairement voté en faveur de du maintien du serment au roi, et qu'ensuite ce sont des conservateurs qui ont ri, donc en bonne partie de leurs collègues au Québec, ça en dit peut-être quelque chose sur ce qui va arriver dans le gouvernement de M. Poilievre du point de vue du Québec, parce qu'il risque d'avoir des députés conservateurs qui seront en position, disons, de clash là, par rapport à la mentalité qui va régner dans le gouvernement de M. Poilievre. On est encore dans l'idée des deux solitudes. Là. Vraiment, il y a une vision du monde qui est complètement différente au Québec. Et aussi, en Acadie, vous avez parlé des Acadiens qui ont été déportés. Il y a des femmes qui ont été violées, il y a des maisons qui ont été brûlées, des enfants qui ont été exécutés. Donc, c'est une grande tragédie dans l'histoire de notre pays, 1755. Mais est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. La moquerie, elle est très conservatrice depuis quelques années. Cette idée un petit peu de nonchalance, de « oui, oui, on peut faire ça », puis on a Jacques Gourde qui s'élance comme ça, et bon, c'est tout un personnage aussi, là, celui-là, mais moi, ça ne me surprend pas, et ça ne fait qu'ajouter encore un autre exemple de raison.
Mais là, on est très loin des conservateurs qui ont la réputation d'être plus ouvert aux revendications.
Non, mais Pierre Poilievre a transformé son équipe en une équipe de goons. C'est vraiment ça, là. Moi, on me le dit, j'ai un père qui plaide à la Chambre des communes, qui siège à la Chambre des communes, et il me le dit, c'est l'ambiance, elle est très hostile, là. Les conservateurs ont le couteau entre les dents, et ils sont pas à une blague, disons, de mauvais goût de près, là.
Est-ce qu'ils sont dans la transgression? Alors, de ce point de vue-là, on a raison d'évoquer le trumpisme quand on l'écrit. Non, ça va trop loin.
Bon, trumpisme, non. Non.
Oui, ben enfin, cette mouvance populiste qui aime les grossièretés et faire du bruit.
Oui, tout à fait, ça on peut le dire, oui.
Bon, alors il y a qu'un petit bout de trumpisme là-dedans.
Peut-être.
J'imagine. Bon, on s'entendra là-dessus. Changeons. Un mot à ajouter là-dessus, Frédéric Lapointe?
Non, si ce n'est que Rémi a raison que cette attitude est indicatrice, là, nous donne des indices de ce que pourrait être un gouvernement Poilievre face à une question québécoise qui va se dramatiser. Hein, je vous rappelle que c'est sous un gouvernement Poilievre que nous aurons un prochain référendum sur l'indépendance.
Et peut-être une contestation de la loi 21 en Cour suprême avec le concours du gouvernement fédéral aussi, hein, il faut le dire, à suivre dans ce cas-là. Ça promet, vous êtes en train de nous dire que ça va jouer dur. Donc, Frédéric Lapointe et Rémi Villemain. Oui, c'est ça. Restons à Ottawa et restons avec vous, Frédéric Lapointe. Commission Hogue, l'ingérence ou l'influence, on ne sait plus trop, chinoise ou d'ailleurs, par ailleurs, là, au Canada. On a entendu Justin Trudeau cette semaine témoigner. On ne peut pas dire qu'on a appris grand-chose. Si vous pouvez me dire ce que vous en avez retenu, Frédéric Lapointe, mais plus largement, de tout cet exercice, il en ressort certains constats. J'ai envie de vous demander, est-ce que le multiculturalisme canadien est en cause ici? Est-ce que, à force de développer, d'encourager des communautarismes très, très forts, on est en train d'en arriver à ce que, voilà, ces communautés deviennent à ce point pesantes politiquement, qu'elles peuvent jouer peut-être de façon indue sur la politique canadienne et qu'à partir de là, ben, la mère patrie de chacune d'entre elles a bien envie de s'en mêler, de trouver elle aussi son réseau, son canal d'influence, puisque le Canada, ben, ça ressemble beaucoup à une sorte de club de cabane à sucre où on prend jamais au sérieux ces choses-là. On a l'impression qu'on peut y faire un peu n'importe quoi.
Oh, le Canada, à certains égards, est trop gentil et c'est vrai que la présence de multiples diasporas peut inviter...
Diaspora, hein, là, c'est le mot est beaucoup utilisé par Justin Trudeau, là, d'ailleurs.
Oui, exact. Mais cela dit, l'ingérence étrangère peut faire l'économie de la présence de diaspora. Hein, aux États-Unis, là, les élus qui sont achetés ou compromis par Vladimir Poutine et la Fédération de Russie, ce ne sont pas des élus d'origine russe. Hein, donc, ce n'est absolument pas nécessaire que d'avoir des minorités ou des diasporas pour qu'il y ait de l'ingérence étrangère.
On peut avoir YouTube aussi, oui, c'est ça.
Il y a toutes sortes de façons.
Oui.
Bon, c'est simplement que cette façon-là est peut-être plus disponible pour certains régimes étrangers au Canada, là, pour les raisons que vous avez mentionnées. Cela dit, la commission Hogue nous a quand même appris quelque chose. La première, c'est que l'anecdote peut sembler banale, là, mais vous vous souvenez que la chef de cabinet de Justin Trudeau affirmait que non, Justin Trudeau reçoit toutes les notes, et il prend les décisions et patati
ouais,
et patata.
C'est pas ça finalement. Hein? Non.
C'est pas tout à fait ça finalement. Donc c'est peut-être l'affirmation rendait peut-être mettait peut-être le premier ministre sous un judicieux éclairage la première fois. Hein, il a l'air aux commandes, il a l'air de tout lire. C'est mieux que le contraire. Mais quand vient le temps de rendre compte de tout ce qu'on a lu, ben c'est peut-être plus pratique d'entretenir le flou sur ce qui a été vu et ce qui a été moins bien vu ou peu lu ou de tout ça de manière à éviter une responsabilité un peu trop gênante. Le deuxième élément, c'est le témoignage. Je me souviens pas si c'est l'actuel directeur de SRS, en tout cas c'est un responsable très élevé de SRS qui avait à donner les briefings au premier ministre sur ces questions-là. Et il a témoigné presque à la manière d'un représentant de la mafia, c'est-à-dire en ne niant pas l'évidence. Ah oui, hein, quand on regarde l'agenda, cette rencontre-là a eu lieu. Qu'est-ce qui s'y est dit? Ah non, je m'en souviens pas. Donc, moi, je vous le dis, je le crois pas.
Oui.
je pense encore une fois que c'est une façon élégante d'éviter d'entrer dans la discussion, de protéger le premier ministre, et protéger le premier ministre, mine de rien, c'est un peu le travail des institutions de l'ordre dans un pays. On veut pas, quand on est une organisation responsable de l'ordre, de se mettre en porte-à-faux hein, avec le patron, avec le premier ministre. Donc, je pense que et le bureau du premier ministre et le SRS, ils jouent la trappe pour éviter des problèmes dans ce dossier-là.
Oui, sous couvert de protéger, au fond, justement, ce qui est du renseignement secret, sensible, hautement... Voilà.
Ouais, mais là, ils ne l'invoquent pas. C'est drôle. Hein? C'est pas ça qu'ils ont évoqué. Encore une fois...
Non, mais c'est un peu
dit,
en...
Je ne lis pas tout. Puis l'autre dit, ben j'ai oublié. Alors,
oui.
On a droit à une nouvelle vague d'arguments. Là.
Oui, c'est vrai. Mais bon, ça reste un peu en filigrane de tout ça. Rémi Villemur, trouvez-vous qu'on est dans un pays qui sous-estime la question de l'ingérence, de l'influence étrangère? J'emploie à dessein les deux termes parce que la ligne est très mince entre les deux. Lorsque vous êtes un candidat à l'investiture libérale, puis vous faites venir des autobus bondés d'étudiants chinois pour vous faire élire, là-dessus, Justin Trudeau était très léger. Hein? Il disait, vous savez, moi aussi, dans mon comté, il y avait des autobus de Grecs. Je sais pas si c'est une excuse. Il me semble que c'est léger.
Bien, en fait, il y a deux choses. Premièrement, la réaction de Justin Trudeau... Il faut essayer de l'analyser parce que lui, il a tout intérêt à se montrer, à s'afficher comme un peu en retrait, un peu léger par rapport à ça.
Il a dit qu'il ne comprend pas tout ça. Hein? Il trouve assez difficile de jouer entre ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire parce que c'est du renseignement.
Oui, mais ça, c'est ce qu'il dit, c'est la façon qu'il se justifie, mais c'est que s'il se montrait préoccupé par ce qui se passe, là, il révélerait finalement que son gouvernement l'est préoccupé. Et il n'a pas intérêt à faire ça. En même temps, quand il croise les jambes durant son entretien et qu'il se montre un petit peu non savant de ce qui se produit, ben là, on le regarde aller puis on dit, mais ça n'a aucun sens là, qu'il ne se montre pas plus préoccupé que ça. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Dans le Canada anglais, ce dossier-là est beaucoup plus couvert dans les médias. Il préoccupe les Canadiens. Pourquoi? Parce que leur État, c'est le Canada. Au Québec... Okay, qu'on soit souverainiste ou pas, là, notre État, c'est le Québec. Ça se démontre de plusieurs façons. On n'a pas assez de temps pour en parler, mais les Québécois, là, vous noterez, là, c'est pas un dossier qui les intéresse beaucoup. Ça fait la une, une fois de temps en temps, de Radio-Canada, mais vous ne verrez pas ça dans les journaux.
Non, on en parle peu.
Non, ce qui nous préoccupe, c'est l'immigration. C'est bon. Donc, ce sont des enjeux d'ingérence qui regardent plus, concernent plus le Canada anglais. Et là-bas, ils capotent un peu. Parce qu'effectivement, les Sikhs, c'est pas au Québec là, qui sont établis en majorité. C'est plus en Ontario, c'est plus dans l'Ouest canadien. Les Chinois, même chose. Il y a énormément de Sikhs au Canada, hein, une communauté de près de 800 000 personnes. C'est évident, là, pour faire un lien avec ce que vous disiez, que ça fait partie de la stratégie de l'Inde ou alors de la Chine, puisqu'il y a aussi une importante population chinoise. Ça fait partie des risques, en effet, du multiculturalisme.
Alors, on voit ça comme une occasion.
Bien, tout à fait. Ça s'appelle gouverner.
Influencer, parce qu'au Canada, on a cette religion qui fait qu'on n'ose jamais remettre en cause certains communautarismes, au fond.
Sauf le communautarisme québécois.
Ah, ben, oui, évidemment. Oui, si on reconnaît que le Québec est une communauté, d'ailleurs, oui. Ça, c'est une autre question. Restons, Frédéric. Tiens, avec vous, Rémi Villemur, à Ottawa, il faut parler de ce sondage à Bacchus. Donc, après plusieurs jours de striptease, d'effeuillage, sur des mesures budgétaires qui devraient normalement plaire à tout le monde, en tout cas à beaucoup de monde, notamment sur le logement et d'autres choses. On avait critiqué d'ailleurs le fait que ces mesures sont autant d'empiètements potentiels dans les champs de compétences des provinces canadiennes et du Québec. Est-ce que... Alors là, le sondage à Bacchus nous montre, Rémi Villemur, que l'écart s'agrandit. Les conservateurs se détachent à nouveau des libéraux. Ils ont fait des gains pendant cette période. Ce n'est qu'un seul sondage, mais il y en a eu un autre qui n'était pas très, très bon aussi il y a quelques jours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas du tout, là.
Non, ben c'est parce que c'est un peu la même chose qu'on observe au Québec, là, quand François Legault essaie d'être attachant, essaie d'être alléchant, il obtient le résultat contraire. C'est la même chose qui se produit à Ottawa. Pourquoi? Parce qu'on est entré dans une espèce... c'est une étape dans l'épisode de séduction où on se rend compte que rien ne peut aider les libéraux. Il n'y a rien à faire, en fait.
On les croit plus.
Oui, c'est exactement. Puis là, en fait, le reproche qu'on faisait beaucoup aux libéraux, du point de vue conservateur, c'est d'avoir dépensé énormément d'argent. Donc, en voulant faire plaisir aux Canadiens en disant « OK, regardez, on va régler le problème », ben, les conservateurs, en tout cas, les sympathisants conservateurs se disent « Non, mais ben, c'est encore de l'argent! »
Ben, ces jours-ci, c'est ça, quoi, 18 milliards, 20, 15, je sais plus.
On dépense. Puis, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à adhérer, et moi le premier, à cette idée que cet argent-là, c'est qui va le payer, en fait, là? C'est nous, là. C'est des prêts, donc il y a de l'intérêt sur la dette, c'est les prochaines générations. Donc, en fait, c'est une stratégie qui n'est pas payante et qui ne peut pas l'être. Il faudrait faire preuve, au contraire, d'un espèce d'esprit conservateur au plan budgétaire. Mais on ne verra pas ça d'un gouvernement de Justin Trudeau, là.
Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lapointe? On fait tout ce qu'on peut pour essayer de séduire et on obtient le résultat inverse, apparemment.
Oui, Rémi a raison de dire que lorsqu'on part de très bas, la commande est encore plus difficile à livrer en termes de séduction. Mais moi, je me souviens de l'élection de 2003, hein, où Bernard Landry était premier ministre sortant. Il était populaire, les gens étaient satisfaits de son gouvernement et dans sa campagne électorale, il y avait des annonces quotidienne, je pense qu'on s'est rendu durant cette campagne électorale-là à rendre déductible d'impôt l'achat d'espadrilles pour les enfants, pour qu'ils puissent participer à du sport parascolaire. Écoutez, c'était fascinant là, comme feu d'artifice, mais en fait, ça a été davantage tourné au ridicule. Et là, on parle d'un gouvernement qui était populaire et envers lequel les gens étaient satisfaits. Alors, je vois pas en quoi, lorsqu'un gouvernement est impopulaire et que les gens sont insatisfaits, et qu'en plus, ces mesures stimulent une inflation qu'on est en train de tenter de juguler, je vois pas en quoi là, ça peut faire remonter la popularité de ce gouvernement.
Mais acheter des souliers, c'est une chose, mais là, on parle de mesures là, pour le logement qui peuvent faire la différence pour des jeunes familles dans l'accès à la propriété. C'est quand même étonnant que même ça, on rejette ça du revers de la main, Frédéric Lapointe, c'est parce qu'on n'y croit pas, au fond?
Je pense que les gens vont être satisfaits lorsqu'ils vont voir les résultats. Le gouvernement fédéral peut faire de bonnes choses. Il peut stimuler l'économie, il peut s'occuper des Autochtones, il le fait probablement un peu mieux là, depuis une décennie, mais dans des champs de compétences qui ne sont pas les siens, sur des sujets qui mettent 5 ans, 10 ans, 15 ans à se matérialiser, les gens vont pas voter sur ces bases-là.
Intéressant. En 10 secondes, Rémi. Oui, allez-y.
Non, mais c'est qu'au niveau même de comment on communique ces nouvelles-là, oubliez-le pas. Là. La semaine dernière, on en avait parlé, Justin Trudeau qui dit aux journalistes dans un point de presse à l'extérieur, on a trop accueilli des migrants. Là, vous recevez ça comme Canadien, puis vous vous dites, mais donc c'est de votre faute. Donc là, on vous dit, OK, ça va coûter 10 milliards régler le problème. Donc là, on pourrait imaginer, si on est un stratège au Parti libéral, que les gens vont se dire, OK, au moins ils prennent les moyens pour régler. Non. Quand vous êtes un conservateur et que vous faites votre publicité, vous dites, regardez, ça va coûter 10 milliards régler un problème qu'ils ont eux-mêmes créé. Vous voulez voter pour qui aux prochaines élections?
Accessoirement, c'est un peu insultant. Hein? Je vous ai traité de raciste parce que vous le disiez. Maintenant, je le dis moi-même puis je devriez voter pour moi.
Oui,
c'est un peu particulier. Merci beaucoup, Frédéric Lapointe. On vous laisse retourner congresser ou plutôt conseil nationalisé. Et merci d'avoir pris part à l'émission en direct de Drummondville ce midi. Merci beaucoup, Rémi Villemur. À vous.
Merci
à vous deux, chers auditeurs. Nick Payne qui vous dit merci. À vous tous, surtout d'avoir été à l'écoute nombreux. C'est avec un sentiment de grand, grand, grand privilège et de profond plaisir aussi qu'on vous sait là à l'écoute. Merci à Lysandre Duplay à la mise en onde et à samedi prochain, même heure, même poste.